Nickel, ça marche. Ok. Alors ce matin, je voulais commencer par vous parler d'Adam et Ève. Adam et Ève. On va dresser un petit tableau ensemble. Donc Adam et Ève, vous avez, il y a toute la création, et puis la création s'achève sur la création d'Adam et Ève, ce souffle de vie qui est donné en eux, d'accord ? Et au moment où ils sont créés, cette parole de Dieu qui dit qu'ils ont été créés à son image, hein, qu'ils sont l'image de Dieu. Ils ont été créés à son image, ils sont comme Dieu. Et on le voit dans la suite de la Genèse où Dieu donne autorité à l'homme et à la femme pour dominer sur toute la création. Ils sont représentants de l'autorité de Dieu sur la terre. Ils sont là en tant qu'êtres créés, dominant sur une création parfaite que Dieu a faite pour sa gloire à lui et pour l'homme aussi. Vous avez le tableau là, c'est bon ? Et dans ce tableau-là, d'Adam et Ève qui sont créés à l'image de Dieu, qui sont créés comme Dieu, Satan est là et vient les tenter sur un sujet qui du coup est assez étonnant. Il vient leur proposer d'être comme des dieux. Et je me dis, c'est quoi l'histoire là ? Ils sont créés, ils sont comme Dieu, et puis Satan vient et leur dit, je vous propose d'être comme des dieux. Enfin, je ne sais pas vous, je n'ai jamais vraiment réalisé ça, mais je me dis que c'est probablement l'argument le plus pourri qui a eu le plus d'impact dans l'histoire tout entière, d'accord ? On sait que la chute est venue derrière ça. Comment, alors que je suis créé comme Dieu, à son image, il y a vraiment cette notion de « je ressemble à, je suis comme », d'accord ? Hein, dans la manière dont ils ont été créés. J'ai l'autorité de Dieu sur la terre, je suis représentant de cette autorité-là, je domine sur toute la création, et bah quand Satan me dit bah si tu étais ce que tu es déjà, ok. Ok, je croque dans le fruit, et puis la chute et le péché qu'on connaît. Alors, voilà, c'est un argument qui est pourri, certes, qui a eu beaucoup d'impact, mais si cet argument il a eu un impact, c'est qu'il a eu un écho dans le cœur d'Adam et Ève. Et je me suis interrogé sur quel était cet écho. Et quand on réfléchit, on se reconnaîtra, je pense, en tout cas moi je me reconnais là-dedans. Le cœur de l'homme, il cherche toujours plus, il cherche toujours mieux. Il y a une sorte d'insatisfaction permanente où c'est même pas toujours conscient, mais on a envie de plus. Et quelque part, c'est quelque chose de bon qui est planté en nous. Parce que si on ne voulait pas plus, on n'aurait pas envie de connaître plus notre Dieu. On n'aurait pas envie d'entrer plus en relation avec lui encore. On n'aurait pas envie de encore plus le connaître. Mais ce encore plus, il est dans nos cœurs. Il est là, il est écrit. Et Satan, il a utilisé ça pour dire, mais vous pourriez avoir encore plus. Vous pourriez être encore plus. Et alors que c'est une bonne chose, bah, ça peut se transformer en quelque chose qui n'est pas très bon. Et cet homme qui cherche toujours plus, qui cherche toujours mieux, ça crée une chose, au bout du bout, ça crée aussi la comparaison. Le fait que je regarde par rapport à quelque chose que je n'ai pas ou par rapport à quelque chose que je ne suis pas et je me compare par rapport à ça. Je ne veux pas nous accabler ce matin, hein, je veux juste décrire des choses qui sont une réalité. Je me compare, c'est une réalité. Mais ce que je veux qu'on touche du doigt ce matin, c'est que la comparaison, elle peut nous tuer. Elle peut nous tuer spirituellement, elle peut nous tuer dans nos vies si je laisse la comparaison prendre de la place. Pourquoi ? Parce que la comparaison, elle va rendre impossible des choses qui pourtant pourraient être possibles. Parce que on voit David, le tueur de géants, et on voudrait être des tueurs de géants. Et on oublie que David, il a d'abord été berger, que David, il a d'abord tué des lions, qu'il a d'abord tué des ours. C'était déjà pas mal, hein, franchement, le gap entre les deux. Mais on oublie ça parfois. Et on se dit, waouh, David, c'était un tueur de géants, et moi, je veux être un tueur de géants. Et la barre, elle est tellement haute, que qu'est-ce que ça fait ? Ça rend impossible le fait que je sois un tueur de géants. Juste parce que j'ai oublié qu'avant ça, ben, je pouvais être un berger. Et qu'après ça, je pouvais protéger mon troupeau. Et qu'après ça, je pouvais tuer des lions et des ours. Et qu'un jour, grandissant dans mon expérience, à un moment donné, je pourrais être conduit à être un tueur de géants. Et donc cette comparaison, elle est bonne parce qu'elle crée de l'inspiration. mais elle peut aussi être dangereuse dans le sens où elle nous bloque. Et je me souviens de mon fils, qui n'est pas là, non, Ézéchiel, qui cherchait quel sport il voulait faire. Et moi, en bon papa, j'ai eu la bonne idée de lui montrer des vidéos sur YouTube des différents sports qu'il pouvait y avoir. Alors bien sûr, du coup, c'était des vidéos de professionnels qui faisaient ces sports-là. Et je me souviens d'un, notamment, la gymnastique. Ça l'intéressait, la gymnastique artistique, avec les agrès, le sol, les sauts dans tous les sens, les barres parallèles, fixes, machin. Toutes ces choses-là l'intéressaient. Donc je lui ai montré des vidéos. Et quand il a vu ça, il n'a pas voulu faire de la gym. Il ne voulait plus faire de la gym. Pourquoi ? Parce qu'il disait, je n'y arriverai jamais. Je n'y arriverai pas. Parce que, naturellement, il s'était comparé à... Il voyait le gap qu'il y avait pour arriver à être comme ça. Il a dit, mais ça, je n'y arriverai pas. Donc, ben, je ne fais rien. Je leur laisse. Je n'y arriverai pas. Et donc, vous voyez la comparaison, ce qu'elle peut créer. D'accord ? La comparaison, elle est naturelle dans nos cœurs, mais voyez ce qu'elle peut créer. Et la réalité dans cette histoire, si j'arrive au bout, c'est qu'Ézéchiel, maintenant, va commencer de la gym l'année prochaine, parce que peut-être qu'il a grandi aussi en assurance, il s'est frotté à d'autres sports où il a réalisé qu'on démarrait petit et qu'on grandissait pas à pas. Mais il a fallu 4 ans entre le moment où il aurait voulu commencer et le moment où il va commencer maintenant. Et ces 4 ans-là, je suis sûr qu'il aurait eu du plaisir à y aller dès le départ s'il avait réalisé et accepté qu'en fait, c'était pas à pas, pas à pas. Et si je dis ça ce matin, c'est parce que je crois qu'il y a un peu de ça dans nos vies, il y a un peu de ça dans l'Église et dans notre marche avec Dieu. Combien de fois on regarde, on voit des gens qui sont devant, on voit des héros dans la parole de Dieu, on voit des choses qui sont extraordinaires et on se dit « Mais qu'est-ce que je suis petit par rapport à ça ? Mais comment moi je vais réussir à faire tout ça ?» Un peu comme Ézéchiel face à ces vidéos-là. Et puis parfois on perd juste du temps et finalement on grandit dans tous ces domaines et puis parfois on reste immobile, on ne bouge pas. Il y a plein de héros partout qui changent l'histoire. Le monde, il nous parle en permanence de héros. Il parle en permanence de stars, de gens qui sont devant, qui font des choses extraordinaires. Les médias nous en parlent en permanence dans les informations. Le cinéma nous présente des héros et des super-héros en permanence. Et l'histoire de l'Église, elle est aussi remplie de héros. Et la Bible, elle est remplie de héros. Et dans l'Église, il y a aussi des héros, il y a des gens exceptionnels. Mais ce que je veux toucher juste du doigt ce matin, c'est que dans exceptionnel, il y a exception. Et si ces gens-là sont une exception, ça veut dire que moi, je ne peux pas être comme eux, parce qu'ils sont des exceptions. Et ça, je veux dire que c'est un mensonge et que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'exception. Il y a des gens exceptionnels, mais ils ne sont pas des exceptions. Nous sommes tous exceptionnels. Amen. Avec des dons différents, avec des appels différents. On n'est pas tous appelés à être et à faire la même chose. Mais je veux juste briser ça ce matin, cette pensée qu'il y a des gens exceptionnels et il y en a qui le sont moins. Il y a des exceptions et il y a les non-exceptions, il y a la normalité. Je veux briser le fait que quand je suis né en tant que héros ou je ne suis pas né en tant que héros et qu'il y a des castes et qu'il y a des clivages. Et je veux briser ça parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce que je veux vous démontrer ce matin, c'est que Dieu, il écrit l'histoire avec des gens qui sont totalement ordinaires. Totalement ordinaires. Et que ces gens-là qui ont accompli qui ont été en position d'être des héros, quand on regarde leur vie, c'était des gens comme vous et moi. Rien de plus. Et ça veut dire juste une chose, que j'aurais pu être ce héros. Fin. Je vais prendre l'exemple de David, Thévenet, si tu m'autorises. Est-ce que je suis inspiré par David ? Donc David, c'est quelqu'un qui voit énormément de guérisons, qui bouge énormément dans la rue, qui rencontre beaucoup de gens et qui a un témoignage extraordinaire, qui amène des âmes à Dieu, qui a du fruit. Est-ce que je suis inspiré par David? Ou est-ce que je veux faire la même chose que David? Est-ce que je veux avoir autant de fruits? Et si je regarde aux fruits de David, je vais peut-être commencer un peu, et puis je ne vais pas avoir le même fruit. Et je vais me décourager. Et je vais finir par me dire que David est quelqu'un d'exceptionnel, que c'est une exception, et que bah, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, je le laisse faire. C'est son travail à lui. C'est son rôle d'être ce héros-là dans notre Église. Et ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. La Bible, elle ne dit pas « j'ai choisi des héros pour aller évangéliser, j'ai choisi des héros qui vont guérir les gens, puis j'en ai choisi d'autres qui seraient dans l'Église et qui attendraient. » Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu, il dit « allez, tous, allez, guérissez les malades, allez, faites des nations des disciples. » Tous, c'était un message qui était pour l'Église tout entière, et ce n'était pas pour des exceptions. Et donc, est-ce que je suis inspiré par David? Est-ce que je suis inspiré par comment est-ce qu'il arrive à ça? Comment est-ce qu'il en est arrivé à vivre ces choses-là? Comment il en arrive à vivre ces fruits-là aujourd'hui? Ou est-ce que je compare simplement les fruits que moi j'ai dans ma vie aujourd'hui aux fruits que lui, il a dans sa vie aujourd'hui? Je pense que si j'avais la même consécration sur ce sujet-là que David, à savoir sortir toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, proposer la prière, prier, prier et prier, on verrait les mêmes choses. Ça, j'en suis convaincu. Et n'importe lequel d'entre nous, s'il commence à exercer son don, verra du fruit, et de plus en plus de fruits. Et David n'est pas une exception. David s'est juste consacré de cette manière-là à Dieu, et il a le fruit qui découle de cette consécration-là. Donc, il n'est pas une exception. Et voyez la différence entre l'inspiration et la comparaison. Je peux être inspiré par des gens, par des hommes, par des héros, par l'histoire, par plein de choses, ou je peux me comparer à. Et la comparaison, elle amène le découragement, elle amène l'ibomilisme, et elle amène les clivages. Les spécialistes. Il y a les spécialistes de l'évangélisation dans les églises, souvent. Il y a les spécialistes de la prophétie. Ah oui, c'est lui qui prie le matin, qui a des images pour tout le monde à chaque fois. Il y a les spécialistes du ménage. Il y a les spécialistes des enfants. Il y a les spécialistes... Il y a moins de spécialistes du ménage, c'est vrai. Il y a les spécialistes des enfants, il y a les spécialistes de la louange, il y a les spécialistes de tout. Mais non, non, non. On est juste tous des gens consacrés dans des domaines différents. Certes, mais c'est juste ça. C'est juste ça. Parce que la réalité, c'est que si je suis un héros, c'est moi qui écris l'histoire. Et dans ce qu'on a lu ce matin, il n'est pas question de moi qui écris l'histoire, il est question de Dieu qui écrit l'histoire, de Dieu qui est au-dessus de tout. Et la gloire est pour lui, et la gloire, elle n'est pas pour moi. J'irai même plus loin dans ce verset-là de 1 Chronique qui dit que « Tout vient de toi et nous recevons même de ta main ce que nous t'offrons. » C'est-à-dire que même ce que je considère avoir comme qualité, même ce que je considère avoir comme don, ce que je considère avoir comme faisant de moi un qualifiable héros, même ça, ça vient de lui. Ce n'est qu'un retour, ce n'est qu'une réponse à ce qu'il a donné. Parce que Dieu est Dieu. Et parce que Dieu écrit l'histoire. Et il est le seul à écrire l'histoire. Il y a quelques semaines, j'ai été frappé par ce passage-là, d'Éphésiens 3, 20, 21, qui dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Amen. Vous connaissez ce passage. Mais vous savez ce qui m'a frappé dans ce passage? C'est qu'il n'est pas écrit comme ça. Il est écrit comme ça. Et là, ça change tout. Là, ça change tout. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je demande ou de ce que je pense, à lui soit la gloire, pas à moi. À lui soit la gloire. Mais il peut le faire par la puissance qui agit en moi. Dieu ne s'est pas choisi quelques héros. Il s'est choisi un peuple au travers duquel il agit. Et il tire la gloire de ces choses-là. Dieu, il agit au travers de nous. Et puis il ajoute. C'est ça la règle divine et c'est ça qui fait des actes héroïques et des actes qui changent l'histoire. C'est que Dieu ne se limite pas à ce que nous faisons ou à ce que nous avons entre les mains. Avec ça, il multiplie et il ajoute. Et c'est ça cette règle que je veux nous faire toucher du doigt ce matin. On s'intéressera tout à l'heure aux héros, parce qu'il y en a, il y a des héros inspirants, mais j'ai juste envie qu'on regarde ce matin ça, le fait que notre Dieu est extraordinaire, que nous sommes des gens ordinaires et que sa puissance en nous, elle fait au-delà. Et Dieu, il n'attend pas des héros qui changent l'histoire parce que lui, il est le héros. Il n'attend pas que je me lève en tant que héros, il attend que je me lève en tant qu'homme ordinaire, femme ordinaire, juste ce que je suis. Et il ajoute et il multiplie. Quand on chante I'm gonna be a history maker in this land, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là qui dit je serai quelqu'un qui va changer l'histoire de ce pays. Moi, je dis ok, je l'ai chanté plein de fois ce chant-là et je le chanterai encore. Par contre, je veux juste qu'on fasse attention. On pourrait presque le chanter, c'est oui, Seigneur, tu seras un changeur d'histoire au travers de ce que moi je vais faire. Et la gloire est pour toi. On peut chanter ce chant-là. Je serai quelqu'un qui va marquer les temps et l'histoire de ce pays. Oui, mais pas parce que c'est moi qui ai le stylo et qui écrit l'histoire. Juste parce que moi j'ai de l'encre et Dieu il va utiliser cette encre-là pour écrire quelque chose qui est bien plus grand que ce que moi je pourrais écrire moi tout seul. Vous saisissez un peu le point de vue que je veux prendre ce matin. Donc Dieu n'attend pas des héros, mais juste des hommes ordinaires qui se consacrent et qui le laissent agir. Alors je disais, la question du héros, elle est légitime. Parce que quand on regarde Pierre, par exemple, qui a marché sur l'eau. Moi, je ne sais pas marcher sur l'eau. Est-ce que Pierre était un héros quand il a marché sur l'eau? Est-ce que Pierre était un héros quand il a été à la rencontre de Jésus en train de marcher? Ou alors c'est que c'était une eau qui était très salée? Très très salé. Ouais. En fait, c'était sur les salins d'Aigues Mortes. Non. Il a été un héros, oui. Mais il a été un héros dans le fait qu'il a fait confiance et qu'il est sorti. Il a fait confiance et il a osé sortir. Est-ce que quand Pierre est sorti de la barque, il avait l'assurance que son pied allait tenir sur l'eau? Est-ce qu'il avait reçu un SMS qui lui disait « C'est bon, vas-y, go, tu peux y aller, je t'assure. » Est-ce qu'il a reçu des chaussures spéciales qui faisaient qu'il tiendrait? Non, quand il est sorti comme quand il était avant, à savoir, il n'avait aucune assurance dans le fait qu'il allait pouvoir tenir. Et pourquoi est-ce qu'il est tenu? Parce que Dieu l'a soutenu, parce que Dieu a fait ce miracle, parce que Dieu lui a donné la capacité de marcher sur l'eau, parce que Dieu a ajouté à sa foi, il a multiplié, et c'est lui qui est glorifié. C'est pas Pierre qui est glorifié d'avoir marché sur l'eau. C'est Dieu qui est glorifié d'avoir permis ce miracle-là dans la vie de Pierre. Et on voit Pierre qui doute à un moment donné et plouf, qui tombe dans l'eau. Pierre a fait confiance, il est sorti et puis il a marché par la puissance de Dieu. Alors je parlais du cinéma tout à l'heure et le cinéma il nous dit la même chose. C'est une session de démystification du héros ce matin. Les super-héros, d'accord? Vous connaissez Spider-Man? Oui? L'homme araignée? Il a des pouvoirs qui sont incroyables. D'accord? Au départ, c'est comment? Comment ça s'est passé? C'était juste un humain. Et puis il était dans un labo où il y avait des araignées d'expérience, je crois que c'est un truc comme ça. Et puis à un moment donné, il s'est fait piquer. Et puis, hop, il a reçu finalement une force surnaturelle, il a été transformé par une force surnaturelle et depuis, il avait des pouvoirs. Donc ok, ça c'est pour Spider-Man. Iron Man, qu'est-ce qu'il a lui? À part le fait qu'il a énormément d'argent, c'est vrai. Il était héritier de son père, est-ce que nous, on n'est pas héritier de celui qui a créé le monde? On est encore plus riche qu'Iron Man. Iron Man, c'est juste un homme. Il n'a aucun pouvoir en lui-même. Par contre, il a une force de créativité qui est hallucinante et il a surtout une armure qui est hallucinante et qui lui permet de faire des choses qui sont incroyables. Par contre, sans son armure, il n'est qu'un homme, juste un humain. Hulk, qu'est-ce qu'il est Hulk ? Une espèce de grosse bête verte que même les chars, même les tanks qui peuvent balancer des canons dessus, il n'y a rien qui se passe. Et puis il est très très énervé, très en colère. Et Hulk, c'est qui au départ ? C'est juste un docteur, un professeur dans un laboratoire qui, à un moment donné, dans une expérience qui tourne mal, est soumis à des rayons gamma verts. C'est pour ça qu'il est vert ensuite. Hein, c'est pas des haricots ni des petits pois. Et puis il a une force surnaturel. Il est transformé. Et au départ, ce n'était qu'un humain. Flash, et puis je finirai avec lui. Flash qui va plus vite que la lumière. Il va tellement plus vite que la lumière qu'il arrive à remonter dans le temps et à changer l'histoire parce qu'il se déplace très vite. D'accord ? Au départ, c'était qui ? C'était juste un humain dans un laboratoire. C'est toujours dans des labos. Finalement, on va finir par monter un laboratoire ici, je crois. On va tous aller chez les Mélos, je crois. Donc mercredi, rendez-vous au laboratoire des Mélos, pas chez eux, mais au laboratoire. Puis on va prier qu'il y ait un gros orage. Ça, c'est ce qui est arrivé à Flash. Il y a eu un éclair, il y avait des produits chimiques, ça a créé une réaction, et puis ce mec-là, d'un seul coup, il a pu aller très vite. Donc des super-héros, il y en a, oui, c'est une réalité. Oui, il y a des super-héros, enfin c'est une réalité, on s'entend, hein, c'est une réalité au cinéma. Il y a des super-héros. Mais dans leur histoire, c'est quoi au départ ? Juste des humains, plus une force surnaturelle qui, à un moment donné, vient. Vous voyez où je veux en venir, hein ? Puis on va continuer, parce que dans la Bible, il y en a d'autres aussi. Il y a des héros bibliques. Et Gédéon, alors Gédéon, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. Gédéon, il a sauvé Israël, qui était sous l'emprise des Madianites depuis 7 ans. Qui pillait, qui prenait toutes les ressources. Israël était asservi. Alors c'était une sorte de punition à l'époque parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Ils avaient tous monté des autels de Baal partout. Il fallait n'adorer que Baal. On avait carrément oublié que Dieu était Dieu et on adorait d'autres dieux. Donc il y avait une conséquence à ces choses-là. Israël était asservi. Et Gédéon, tel un héros avec une armée de 300 personnes, a réussi à renverser les Madianites et à donner la victoire à Israël, et à renverser l'histoire d'Israël. Alors, est-ce que c'est un super-héros ? Est-ce que c'est un héros ? C'est un héros dans ce qu'il a fait. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit au départ ? Il lui a dit, va avec la force que tu as. Et ça m'a interpellé. Va avec la force que tu as. Et il a même été plus loin, Dieu, parce qu'au début, il avait une grande armée de 23 ou 25 000 hommes, je crois, je ne sais plus combien exactement, mais dans ces eaux-là. Et puis, Dieu lui a demandé de réduire cette armée, parce qu'il ne voulait pas que Gédéon puisse dire, enfin, il ne voulait pas qu'Israël puisse dire, on a eu la victoire parce qu'on était plus fort que les Madianites. Non, il voulait qu'Israël ait la victoire en ne pouvant dire qu'une chose, Dieu est Dieu, et Dieu écrit l'histoire. Ce n'est pas nous qui avons le stylo, c'est toi, Dieu, qui avait le stylo de cette histoire et c'est toi qui l'as écrite. Et donc 300. Mais Gédéon, alors ok, va avec la force que tu as. Gédéon, dans l'histoire, il a douté. Il a dit, non mais attends Seigneur, tu t'es trompé. C'est pas moi que t'es venu chercher. Moi je suis pas quelqu'un qui ait la trempe de changer, d'avoir la victoire sur les Madianites. J'ai pas la trempe de pouvoir conduire toute une armée à la victoire. C'est pas moi, tu te trompes. Donc ok, on va faire un deal, et puis on va mettre des toisons, je vais te faire faire des choses qui vont me prouver que ce que tu dis, c'est vraiment toi, sachant qu'il avait quand même vu l'ange de l'Éternel, et il savait que c'est l'ange de l'Éternel qu'il avait vu. Je ne sais pas vous, mais demain, j'ai Dieu qui vient se présenter à ma porte, dans toute sa gloire, éclatant de lumière, tout ça, je suis déjà à genoux, il me demande quelque chose, je ne sais pas si je vais tergiverser 50 ans pour savoir si je peux y aller ou pas, mais j'ai des onci. Seigneur, tu te trompes, je ne suis pas qualifié pour ça. Je n'ai pas ce qu'il faut dans les mains pour ça, je n'ai pas ce qu'il faut dans mon cœur pour ça. Et je suis tellement convaincu que ça, que je vais te demander des choses impossibles. Je vais te demander, je vais poser un morceau de laine dehors, là, et puis je vais te demander que toute la plaine soit sèche, mais qu'il y ait de la rosée que sur la laine demain matin. Dieu a répondu à ça. Et puis là, tous, on aurait dit, bah ok, alors c'est bon, on y va. Mais non, Gédéon, il continue encore, tellement il doute, tellement il est convaincu que c'est pas lui. Il doute. Il dit quoi le lendemain? Bah ok, Seigneur, si vraiment c'est toi, on va faire l'inverse. Tu vas mouiller toute la plaine, par contre, tu vas laisser la toison sèche. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Dieu a répondu à ça. Dieu lui a laissé le temps. Et puis, dans la suite de l'histoire, Gédéon, effectivement, donne la victoire à Israël, ou du moins, avec ce qu'il avait, avec la force qu'il avait, Gédéon a été, et Dieu a multiplié et a mis les Madianites en déroute. Je vais passer un peu plus rapidement sur les suivants. Joseph, on connaît l'histoire de Joseph. Joseph qui était l'avant-dernier de sa famille, qui était plutôt détesté par ses frères, parce qu'il avait fait des rêves qui étaient des signes de l'avenir. Ses frères n'ont pas trop apprécié. Et ils n'étaient pas tendres à l'époque. Hein. Ils ont voulu le tuer, et puis quand même au dernier moment, ils se sont dit « Non, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans un puits ». Et puis ensuite, il y a une caravane qui est passée par là, et ils se sont dit « Tiens, on pourrait même, en plus de ça, en retirer des sous, donc on va le vendre en tant qu'esclave ». Et il a été vendu en tant qu'esclave. Donc c'est comme ça que Joseph, quelque part, commence sa vie. Et là, va avec la force que tu as, c'est bien peu. C'est bien peu. Et pourtant, avec cette force-là, Joseph, il est devenu vice-roi d'Égypte. Et il a mis Israël à l'abri de la famine. Parce que Dieu a multiplié. Parce que dans ce qu'il a fait jour après jour, Dieu a multiplié, a donné sa faveur et lui a donné une place, une position que lui-même n'aurait pas pu avoir au départ. Moïse qui conduit le peuple hors de l'esclavage d'Égypte, qui conduit le peuple vers le pays promis, qui accomplit des choses et des miracles incroyable. Moïse, quand il commence, il dit « Non, Seigneur, c'est pas possible, ça peut pas être moi. » Moïse, il est bègue, je ne sais pas si vous le savez. Il n'arrivait pas à s'exprimer en public et il a eu besoin de prendre Aaron avec lui pour la plupart de ses discours parce que c'était incompréhensible au niveau des Juifs. Quelqu'un qui parle comme ça pendant des heures, hein, c'était long à l'époque. Donc Moïse, est-ce qu'il était qualifié, sincèrement, humainement parlant, est-ce qu'il était qualifié pour ce qu'il a accompli? Non, il n'était pas qualifié pour ça. Par contre, il a été avec la force qu'il avait et Dieu a multiplié. Dieu a donné sa faveur. Dieu a ouvert la mer, pas Moïse. Moïse, lui, il savait planter son bâton dedans. Dieu a ouvert la mer. On a parlé du rocher ce matin. Moïse, il savait taper sur un rocher. Je sais le faire aussi. Dieu, lui, il savait en faire sortir de l'eau. Il savait multiplier ce geste-là, multiplier sa foi, multiplier sa consécration. Et Josué, lui, qui est rentré dans le pays promis, Josué, regardez le nombre de versets où il a besoin d'être rassuré. Ne crains pas, ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas, n'aie crainte, n'aie pas peur, prends ta place. Ça voulait dire quoi? Que Josué, c'était pas un gars qui disait « Hop, laissez-moi la place, c'est à moi maintenant de vous faire rentrer dans le pays promis. » Non. Josué, il avait la trouille. Josué, il ne se sentait pas capable de faire ça. Et pourtant, il l'a fait. Et il a fait des choses incroyables. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui était consacrée à son Dieu. Consacrée à son Dieu. Seigneur, je te donne tout, je te sers de tout mon cœur. J'obéirai à tes commandements, je te suivrai, je serai fidèle. Je te servirai, moi et ma maison. Et ils sont rentrés dans le pays promis. Paul, il commence comment? Plutôt mal. Paul, lui, il ne croit pas au message de l'évangile en Jésus-Christ. Il était élevé par les pharisiens dans la loi hébraïque. Et Paul, lui, il a carrément commencé à faire l'inverse. Il a persécuté l'Église, il a tué les premiers chrétiens, il allait les chercher dans les familles. Il a même été chercher, parce que ce qu'il y avait à Jérusalem, ça ne suffisait pas, il a été chercher des lettres pour pouvoir avoir l'autorisation d'aller dans les autres villes, aller chercher ces chrétiens-là aussi. Donc avec un objectif très clair, c'est que ce qui était en train de naître, après la mort de Jésus-Christ, cette église naissante, elle s'arrête, surtout. elle s'arrête. Alors est-ce que là, on est dans un modèle où c'est vraiment le type du héros, quand on sait que Paul, derrière, c'était l'apôtre pour les païens, c'est celui qui a emmené la bonne nouvelle hors d'Israël, c'est celui dont on a des lettres incroyables qui nous donnent des clés pour comprendre qui est Dieu, pour savoir comment être les uns avec les autres. Moi, je dis qu'au départ, il n'y avait pas la prédisposition pour ça. Mais Dieu l'a appelé, il s'est mis à genoux, il a reconnu que Dieu était Dieu, il s'est consacré et Dieu a multiplié. Dieu a donné sa faveur au-delà de toute espérance. Il a fait infiniment au-delà de tout ce que ces gens demandaient ou pensaient. Infiniment au-delà. Et il n'y a pas que ça dans la Bible. Il y a aussi des gens ordinaires. À un moment donné, Jésus est dans le temple, il est en train de discuter avec les pharisiens, et puis il voit une vieille dame, une petite vieille qui vient et qui donne deux petites pièces qui avaient très peu de valeur, quasiment rien, alors que juste avant, il y avait des pharisiens qui avaient donné des sommes astronomiques. Et Jésus pointe et parle de cette petite vieille qui a donné juste ce qu'elle avait. Est-ce qu'on réalise que 2000 ans plus tard, on continue d'être édifié par ce que cette femme a fait ce jour-là? Est-ce qu'on réalise que 2000 ans plus tard, notre Église, ici aujourd'hui à Marguerite, elle continue d'être édifiée par la fidélité d'une vieille dame qui donnait de son nécessaire? Est-ce qu'on réalise que le geste qu'elle a fait, elle n'imaginait mais pas une seconde ce qui pourrait se passer derrière? Elle n'imaginait pas une seconde qu'on en parlerait aujourd'hui et qu'on en parlera encore tant que l'histoire va continuer sur cette terre. Elle n'imaginait pas. Mais Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on demande. Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on pense, au travers de ce que nous faisons. Et si elle n'avait pas donné ce jour-là, on n'en aurait pas parlé aujourd'hui et on ne l'aurait pas su. Et elle n'a pas accompli quelque chose d'héroïque, mais on en parle aujourd'hui. Et Marie, cette prostituée qui rentre alors qu'elle n'est pas autorisée dans cette maison, alors que Jésus est assis en train de discuter et qui brise un vase de parfum sur les pieds de Jésus, et qui commence à lui laver les pieds avec ses larmes, à essuyer avec ses cheveux, etc., qui donne un parfum qui avait une valeur inestimable. Et la réflexion très juste d'une des personnes qui était avec Jésus, qui dit « Mais on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. » Oui, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on en parle encore 2000 ans. On parle de répandre notre cœur devant Dieu. On parle de ne pas calculer le prix de comment on chérit Dieu, de comment on chérit sa présence. On est édifié par cette histoire-là encore 2000 ans plus tard. Et elle n'a pas accompli un geste héroïque, elle a donné ce qu'elle avait. L'une a donné deux pièces de son nécessaire, l'autre a donné un vase de parfum qui coûtait mais plusieurs années de salaire, ou une année et quelques de salaire, quelque chose de vraiment précieux. Et on en parle encore. Et il y en a encore plein d'autres dans la Bible. Et donc vous voyez que dans ce que je viens de dire, il y a ce qu'on appelle les héros bibliques, et puis il y a ceux qu'on n'appelle pas des héros bibliques, qui sont des gens ordinaires. Mais moi je veux redire encore une fois qu'on ne naît pas héros ou non. On le devient. C'est le slogan de l'académie aussi. On ne naît pas leader, on le devient. On le devient. On ne naît pas tueur de géants, on le devient. On le devient. On ne naît pas ouvreur de mer rouge, on le devient. Parce qu'on commence par d'autres miracles, petit à petit. On ne naît pas avec autant de fruits que David dans l'évangélisation ou dans la guérison. Je reviens sur cet exemple-là, mais il est réel. On le devient. On le devient. Ça a un coût et c'est une consécration. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. Et si nous, on est ordinaire, lui est bien extraordinaire. Et je vous ai lu ce matin Romains, je vous l'ai remis là, qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier? Personne, personne. Dieu est Dieu, Dieu est au-dessus de toute chose. Dans l'Apocalypse, voilà comment Dieu se présente. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Sophonie, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Voilà le héros de l'histoire. Voilà le héros de l'histoire. C'est notre Dieu extraordinaire et à lui la gloire, pas à moi. Mais en même temps, quand je lis ça, je me dis, mais alors pourquoi il ne peut pas se débrouiller tout seul? Pourquoi il ne peut pas changer les cœurs d'un coup? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se révéler dans le ciel? Pourquoi il choisit des hommes pour le représenter? Pourquoi est-ce qu'il nous choisit pour agir? Pourquoi est-ce qu'il choisit que sa puissance soit en nous? C'est un mystère, mais c'est une réalité. Et peu importe que ça reste un mystère, ça reste aussi une réalité. La réalité que sa puissance, elle est à l'œuvre en moi. Voilà ce qu'il dit dans Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Joseph, tu l'as dit dans ta prière ce matin, et j'en parlerai aussi après. Demandez et vous recevrez. Afin que ce que vous demandez, vous le recevrez. Afin que dans la marche du quotidien, quand vous avez besoin, vous demandiez et vous receviez. Et il ajoute et il multiplie, hein, au-delà de ce qu'on demande. C'est ce qu'il dit, hein, dans ce verset. Hein. Je fais infiniment au-delà de ce que vous demandez ou de ce que vous pensez. Donc, on peut demander et lui, il multiplie. Des fois, il multiplie à partir de rien. La manne dans le désert, Israël n'avait rien demandé ou si, ils avaient faim. Et Dieu a donné la manne chaque jour. Chaque jour, la manne était là. Ils n'avaient qu'à l'accueillir, fabriquer du pain avec. Pendant la sécheresse, Élie, qui se rend chez une veuve, c'est la sécheresse, c'est la famine, il n'y a rien du tout, elle n'a plus qu'un peu de farine et un peu de lait, juste de quoi faire un dernier repas. Et Élie lui dit, prépare-moi à manger. Et puis elle aurait pu dire, non, j'ai vraiment plus rien là, c'est pas possible. Il y a d'autres personnes dans ce village, va voir quelqu'un d'autre, moi je peux pas. Mais non. Elle l'a reçu comme un appel du Seigneur et elle a fait, elle lui a préparé à manger. Et Élie lui a dit, jusqu'à ce que la pluie tombe, tu ne manqueras ni de farine ni d'huile. Et dans le pot d'huile, l'huile n'a jamais manqué. Et dans le pot de farine, la farine n'a jamais manqué. Parce que Dieu a multiplié dans ce qu'elle avait à donner, Dieu a multiplié. Il ne lui a pas donné des réserves énormes et puis elle avait de quoi tenir. Non. Jour après jour, il a multiplié, il a été fidèle là-dedans. C'est la même histoire qu'on lit quand Élisée se rend aussi chez une veuve et il lui dit, va chercher des pots et puis je remplirai d'huile, va chercher des pots et puis tu auras de l'huile parce qu'elle avait presque plus rien. Même chose. Et donc elle a été chercher des pots et elle a versé à partir d'un pot d'huile, elle a versé dans tous ses récipients. Jusqu'au dernier, et elle a dit à ses enfants, mais donnez-moi encore un pot parce qu'il y a encore de l'huile. Et ils ont dit, on n'a plus de pot. On a été chercher tout ce qu'on a trouvé, il n'y en a plus. Et hop, l'huile s'est arrêtée à ce moment-là. Et elle avait rempli tous les pots qu'elle avait. Et Dieu a multiplié à la mesure de la foi qu'ils avaient. Ils avaient la foi pour 50 pots, et bien Dieu a rempli 50 pots. Ils avaient la foi pour 100 pots, Dieu a rempli 100 pots. Ils avaient la foi pour 5000, Dieu a rempli 5000. Dans la pêche miraculeuse, c'est la même chose. Pierre, c'est un pêcheur de profession. Il a pêché toute la nuit, il connaît son métier, d'accord ? Et Jésus arrive, il débarque, et puis il lui dit, vas-y, avance en eau profonde, jette ton filet. Il lui dit, écoute, j'ai pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Voilà, je sais que ça ne va pas marcher. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. Je saisis ta parole. Voilà ce que j'ai dans mon cœur, et donc je vais le déposer. J'ai ça, comme au casino, je mise ça. Et qu'est-ce qu'il récolte ? une pêche qui est tellement abondante qu'il est obligé d'appeler les barques à côté pour venir lever le filet avec eux. Parce que Dieu multiplie. Regardez ce garçon. Ce petit garçon, quand la foule vient à Jésus et qu'à un moment donné, ils ont faim, parce qu'ils n'ont rien à manger, parce que c'est midi, parce qu'il y a du soleil, on est en Israël, hein, c'est chaud là-bas. Et puis il y a un garçon, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour venir apporter à Jésus 5 pains et 2 poissons? Enfin, même pas, il l'a apporté à ses disciples. 5 pains, 2 poissons. Raisonnablement parlant, vous êtes là-bas, vous êtes assis en train d'écouter les paroles de Jésus, vous avez faim. Par chance, vous avez une maman prévoyante qui a emmené un mini pique-nique. Vous avez 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce que vous faites? Au mieux, vous le partagez avec ceux qui sont autour de vous, en attendant. Non, lui, il l'amène. Qu'est-ce qu'il avait en tête? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec ça? Il nourrit 5000 personnes. Dieu nourrit 5000 personnes. Dieu multiplie. Il multiplie. J'ai que 5 pains à donner aujourd'hui? Eh bien, je donne 5 pains. Dieu va faire 5000. Amen. Amen. Ça m'a fait penser au film, je ne sais pas si vous connaissez L'Ours, ce vieux film. Et à un moment donné, dans ce film-là, c'est l'histoire d'un ourson qui est dans la forêt, et puis il y a des chasseurs, et puis il y a aussi un félin, je ne sais plus si c'est un lynx ou quelque chose comme ça, à un moment donné, voilà, il y a du danger. Et puis il rencontre ce bébé ours, là, il rencontre un gros ours mâle qui est aussi solitaire, qui a un mauvais caractère, tout ce qu'on veut. Et puis, à un moment donné, le bébé ours se retrouve face au lynx, et il est... voilà, il y a un moment de danger. Et puis... avec son courage, il se lève et il rugit. Et le lynx, il s'en va en courant. Et ce petit ourson, là, il est fier de lui. Il est fier parce qu'il s'est levé, qu'il a rugi et qu'il a fait fuir le lynx. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans le film? Il y avait le gros ours derrière qui s'est levé et qui a rugi en même temps que lui. Ce gros ours, il a multiplié ce que ce petit ours, il avait. Ce petit ours, il n'était pas très impressionnant. Mais dans son geste, ce gros ours, il a multiplié et il a fait fuir le lynx. Et c'est ça que Dieu, il fait en nous. Il est à l'œuvre en nous. Et il fait infiniment au-delà de ce qu'on demande. Infiniment au-delà de ce qu'on pense. Alors j'aimerais juste vous laisser le fait d'oser demander. On en a parlé ce matin et c'est une réalité. Oser demander. Pourquoi? Parce que Dieu va multiplier largement au-delà. Infiniment au-delà de ce qu'on demande ou de ce qu'on fait. Le verset que j'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens, il ne dit pas que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de moi, même si c'est une réalité. Hein. Et il fait de toute manière infiniment au-delà de tout. Donc moi, je peux attendre que Dieu mette des situations. Je peux attendre d'être au top pour faire quelque chose. Non. Il dit, tu as 5 pains et 2 poissons, ou tu ne les as même pas, bah demande à les avoir. Et puis avec ça, je vais te donner de pouvoir nourrir 5000. Mais demande. Ose demander. On va pas lire tous ces passages. Je vais vous le raconter. Il y a Jésus qui arrive à Jéricho, et puis il y a Bartimée qui est un aveugle, qui était à la porte, qui était là depuis longtemps. Et puis il entend qu'il y a du bruit, on lui raconte que c'est Jésus, Nazareth, qui arrive, et puis il a entendu parler de Jésus. Il sait qui c'est, tous les miracles qu'il accomplit. Et puis Bartimée, il commence à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» On le fait taire, là, ça suffit. Et ben, de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il réclame, on le fait taire. Mais son cri est plus fort. Il demande. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et à un moment donné, il y a Jésus qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Appelez-le, faites-le venir. Donc là, il y a des gens qui lui disent, « Va, Jésus de Nazareth, il t'appelle. » D'un bond, hein, il se lève, il va vers Jésus, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus, juste une mise au point, enfin, je sais pas, c'était un aveugle, pouilleux, devant une porte, hors de la société. Est-ce que sincèrement, il y avait beaucoup de questions à se poser sur ce que ce gars-là, il voulait? Enfin, un aveugle qui se présente devant nous, et puis ça change Jésus. Jésus sait, par nature, mais non, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi? Parce que c'était important que cet aveugle verbalise ce qu'il attendait. Mon maître, que je retrouve la vue. Voilà sa demande. Et Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Il va même au-delà. Il va même au-delà de la guérison qu'a demandé cet homme. Il a multiplié. Il a aussi sauvé son cœur. Et c'est la même chose avec Salomon. Salomon, où Dieu s'adresse à lui et il lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Waouh. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Dieu ne s'est pas arrêté de dire ça juste à Salomon. Il continue de nous le dire à nous aussi. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et Salomon, il répond, voilà, tu as traité mon peuple, etc. Je voudrais, la seule chose que je te demande, c'est, je voudrais de la sagesse et de la connaissance pour pouvoir diriger mon peuple, ton peuple, dans la connaissance de qui tu es et savoir le gouverner de la bonne manière. Voilà ce qu'il a demandé. Et voilà ce que Dieu lui répond. Il lui répond, tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi. La sagesse et la connaissance te sont accordées. Donc Dieu répond à sa demande. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Je te donnerai, en plus de cela, des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et aucun n'en aura après toi. Qu'est-ce que Dieu fait dans cette histoire ? Éphésiens 3. Je demande la sagesse, je reçois la sagesse. Et bien plus. Je demande, je reçois, et plus. Et je vous laisse ces questions-là. Est-ce que je demande dans ma vie de tous les jours ? Est-ce que j'ose demander ? Ou est-ce que j'attends que Dieu fasse ? Est-ce que j'ose demander ? Est-ce que j'ose demander plus ? Ou est-ce que ce que j'ai, c'est bon ? Et à quoi je m'attends ? Mais demander, c'est bien. Et au-delà de demander, c'est qu'il faut ensuite oser agir. Quand on voyait Pierre, il a demandé à Jésus, « Ordonne que je vienne vers toi. » Et Jésus lui a donné de venir vers lui. Mais Pierre ensuite a osé sortir. Il a cru qu'il avait reçu et il a osé sortir de la barque. Et donc, oser demander et oser agir. Ce garçon qu'on a vu tout à l'heure, il a osé donner ses 5 pains et ses 2 poissons avec lesquels Jésus a multiplié. Il a osé. Comme je dis, il aurait pu le partager juste à côté, c'était ridicule ce qu'il avait amené. Marie, elle ose répandre le vase de parfum aux pieds de Jésus, alors que culturellement parlant, ce qu'elle faisait, c'était inacceptable. Mais elle l'a osé. Et Dieu a multiplié cette histoire pour qu'on soit nourri par ça aujourd'hui. Dans Le Citoyen du Ciel, frère Youn, il dit « Si vous voulez vraiment voir Dieu agir, les 2 choses que vous devez faire sont d'apprendre la parole de Dieu et d'avoir l'obéissance de faire ce qu'elle dit. Apprendre la parole de Dieu et avoir l'obéissance de faire ce qu'elle dit. Qu'est-ce que dit la parole ? Allez. Et donc c'est une histoire de cœur et d'attitude. Ce n'est pas une question de héros ou de pas héros. Dieu, il écrit l'histoire au travers de Jean qui se rendent totalement disponibles pour lui. Et du coup, ils accomplissent des choses extraordinaires, mais la gloire n'est pas pour eux, la gloire est pour Dieu. Et je voulais juste vous laisser quelques clés aussi pour marcher, pour agir. L'humilité, la gloire, elle n'est pas pour moi, elle est pour toi, Seigneur. La consécration, Seigneur, c'est pour toi seulement, et jusqu'au bout. Je ne veux pas calculer la dépense. L'obéissance, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, Seigneur, j'irai. La passion, Seigneur, tout pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, pour que ton règne avance. La dépendance, parce que je ne compte pas seulement sur mes forces ou sur mes 5 pains et mes 2 poissons, mais je compte sur sa multiplication. Et la foi, je crois et j'espère qu'il multiplie. Je crois et j'espère qu'il fait infiniment au-delà de ce que je demande ou de ce que je pense. Alors je finirai par ça. Ne regardons pas aux héros en nous comparant aux héros. Ne regardons pas les tueurs de géants en disant « il faudrait que je sois un tueur de géants ». Regardons les héros comme des gens consacrés qui répandent leur vie devant Dieu et qui voient des miracles jour après jour s'accomplir parce qu'ils demandent, parce qu'ils agissent et que tu multiplies au travers de ce qu'ils font. Soyons des gens ordinaires Osons marcher avec ce que nous avons aujourd'hui. Et laissons notre Dieu extraordinaire ajouter et multiplier. Amen. Amen. Alors j'aimerais juste terminer ce culte comme ça, en priant avant le passage que j'ai lu tout à l'heure, il y a d'autres versets. Et j'aimerais juste qu'on puisse se lever, ouvrir les mains. Et puis je vais prier ça sur nous, pas sur vous mais sur nous, sur moi aussi, sur ma famille. Comme une réponse à ce que Dieu nous a rappelé ce matin, à ce qu'il a mis dans notre cœur. Je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Merci.